à l'écoute de VOA Afrique.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 18 juillet 2023. Bonjour à toutes et à tous en direct de Washington, Idrissa Sédulia. Tout d'abord les titres. Au Cameroun, 10 civils tués dans une attaque de séparatistes armés en zone anglophone. En RDC, la famille de l'opposant assassiné Chérubin Okende porte plainte. Au Tchad, nouvelle grâce présidentielle pour 110 manifestants du 20 octobre. Israël reconnaît la marocanité du Sahara occidental dans un climat régional tendu. Inadmissible, estime le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, après le refus russe de reconnaître l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Cameroun, le ministère de la Défense a annoncé hier que des rebelles séparatistes armés ont tué une dizaine de civils dimanche dans la région du Nord-Ouest. Le point avec Jean-Roger Bion.
Le colonel Cyril Atonfak, chargé de communication du ministère de la Défense, dans un communiqué a précisé hier que dimanche, à 18h GMT, près d'un débit de boissons, une dizaine de sécessionnistes vêtus d'uniformes semblables aux tenues militaires et munis d'armes automatiques ont rassemblé plusieurs citoyens avant d'ouvrir un feu nourri et aveugle et touchant aussi mortellement quelques clients. Le bilan provisoire fait état de 10 morts et 2 blessés. L'attaque a eu lieu dans un quartier de Bamenda, chef-lieu de la région du Nord-Ouest. Une enquête est ouverte par les autorités administratives et judiciaires, selon le ministère de la Défense, tandis que des opérations de ratissage se poursuivent pour retrouver les assaillants. Le 9 mai, Anye Ndenso, un journaliste de 26 ans, a été tué par des séparatistes dans un bar de la même localité. Quelques jours plus tard, Capo Daniel, un leader connu des séparatistes, avait reconnu que le journaliste a bien été tué par des séparatistes, mais qu'il s'était trompé de cible.
Au Tchad, le président de la transition, Mahamat Idriss Déby Itno, a gracié 110 personnes condamnées en mai pour avoir participé à des manifestations réprimées dans le sang le 20 octobre 2022 dans plusieurs villes du pays, selon un décret consulté par l'AFP lundi. Les manifestants avaient défilé à l'appel d'une partie de l'opposition à N'Djamena, la capitale, et dans quelques autres villes pour protester contre le maintien au pouvoir pour 2 années supplémentaires du président de la transition Mahamat Déby, arrivé au pouvoir en avril 2021 à la mort de son père Idriss Déby Itno, tué au front. Les autorités ont gracié 436 personnes condamnées pour leur participation aux manifestations en moins de 4 mois. En République démocratique du Congo, après la découverte du corps criblé de balles de l'opposant Chérubin Okende à Kinshasa la semaine dernière, sa famille a déposé hier une plainte contre inconnu pour arrestation arbitraire et assassinat. Eddie Isango.
La veuve du député national et ancien ministre du Transport, ainsi que ses enfants, son père et ses frères et sœurs, ont saisi officiellement la justice pour que lumière soit faite sur cet assassinat. Leur avocat estime que la démarche permettra à la famille, qui n'était pas encore associée à la procédure judiciaire en cours, d'être tenue au courant de son évolution au quotidien. Chérubin Okende a été retrouvé mort dans sa voiture sur une grande avenue, jeudi à Kinshasa, le corps criblé de balles. Pour Ensemble pour la République, parti de Moïse Katumbi, candidat à la présidentielle, il s'agit d'un crime d'État. Le gouvernement a annoncé une enquête à laquelle seront associés la Belgique et l'Afrique du Sud. Mais les partis de Katumbi voudraient que les enquêtes soient élargies aux États-Unis et à la Grande-Bretagne dans un climat tendu à 5 mois de l'élection présidentielle.
Au Kenya, 12 nouveaux corps ont été retrouvés hier dans la forêt de Chakaola, où se réunissait une secte évangélique pratiquant un jeûne extrême. Le bilan est désormais de 403 morts, Claire Morin-Gibourg.
L'annonce de ce tout dernier bilan a été faite par la préfète de la région, Rhoda Onyancha. Les autorités s'attendent à le voir s'alourdir. Les recherches de fosses communes sont toujours en cours dans une vaste zone, près de 3 mois après la découverte des premières victimes de ce qui a été baptisé le massacre de la forêt de Chakaola. La police estime que la plupart des corps retrouvés sont ceux d'adeptes de l'Église internationale de Bonne Nouvelle, secte religieuse créée par le pasteur autoproclamé Paul Ntenge Mackenzie, qui prônait de jeûner jusqu'à la mort pour rencontrer Jésus. Cet ancien chauffeur de taxi est en détention depuis le 14 avril et va être poursuivi pour terrorisme. Les autopsies ont révélé que la plupart des victimes sont mortes de faim, mais certaines, dont des enfants, ont été étranglées ou étouffées. Le gouvernement a annoncé son intention de faire de la forêt de Chakaola un lieu de mémoire afin que les Kenyans et le monde n'oublient pas ce qui s'est passé.
Après Washington, Israël a décidé de reconnaître la souveraineté du Maroc sur les territoires disputés du Sahara occidental. C'est ce qu'a annoncé hier le cabinet royal arabe en citant une lettre du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou au roi Mohammed VI. La décision israélienne, qui était attendue, survient dans un climat de rivalité exacerbée entre le Maroc et l'Algérie, les deux voisins ayant rompu leurs relations diplomatiques en 2021 à l'initiative d'Alger, qui soutient depuis près de 50 ans les indépendantistes du Front Polisario au Sahara occidental. Le Maroc et Israël ont normalisé leurs relations diplomatiques en décembre 2020 dans le cadre des accords d'Abraham, un processus entre Israël et plusieurs pays arabes soutenu par Washington.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le chef de la diplomatie américaine a qualifié hier d'inadmissible la décision russe de ne pas reconduire l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes. Anthony Blinken a assuré que cette décision va entraîner une augmentation des prix de l'alimentation. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Le choix de Moscou de se servir de la nourriture comme une arme va compliquer l'acheminement d'aliments dans les endroits qui en ont désespérément besoin et entraîner une hausse des prix, a déclaré Anthony Blinken. L'ONU a annoncé que le dernier cargo transportant des céréales en provenance d'Ukraine via la mer Noire a été inspecté lundi soir à Istanbul, à quelques heures de l'expiration de l'accord international. Moscou a refusé lundi de reconduire en l'état l'accord sur l'exploitation des céréales ukrainiennes. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a souligné que des centaines de millions de personnes font face à la faim et qu'elles vont en payer le prix. L'ambassadrice américaine à l'ONU, Linda Thomas Greenfield, a accusé la Russie de prendre l'humanité en otage et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a condamné, je cite, « une mesure cynique ». Quant à l'Ukraine, elle a affiché sa volonté de continuer à exporter ses céréales par la mer Noire, avec ou sans l'accord de Moscou. Signé en juillet 2022 et prorogé à deux reprises, l'accord a permis de sortir près de 33 millions de tonnes de céréales des ports ukrainiens en dépit du conflit.
Dernière minute, des infrastructures portuaires ukrainiennes ont été endommagées dans une attaque de missiles russes ayant visé dans la nuit de lundi à mardi Odessa dans le sud, quelques heures après l'expiration de cet accord céréalier crucial. Cette vague d'attaques est une preuve supplémentaire que la Russie veut mettre en danger la vie de 400 millions de personnes, 400 millions de personnes dans divers pays qui dépendent des exportations alimentaires ukrainiennes, a commenté sur Telegram le chef de l'administration présidentielle ukrainienne, Andriy Yermak. Le président Biden a invité le premier ministre pour une réunion bientôt aux États-Unis. Le premier ministre a accepté, a annoncé lundi le bureau du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou dans un communiqué évoquant un entretien téléphonique long et chaleureux entre les deux hommes. Il s'agirait, signe d'un apaisement des tensions, de la première réunion entre les deux leaders depuis le retour de M. Netanyahou au pouvoir fin 2022. Selon le porte-parole américain John Kirby, la rencontre pourrait se tenir probablement avant la fin de l'année, peut-être durant l'automne. Il a refusé cependant de préciser si elle aurait lieu à la Maison-Blanche ou ailleurs, les détails étant encore en discussion. Le président israélien Isaac Herzog, au rôle essentiellement protocolaire, doit, lui, s'adresser aux deux chambres réunies du Congrès lors de sa visite mardi et mercredi à Washington, où il a été invité par M. Biden. L'émissaire américain pour le climat, John Kerry, a rencontré ce mardi à Pékin le plus haut responsable du Parti communiste chinois pour la diplomatie, Wang Yi, au moment où les deux principaux pollueurs de la planète tentent de renouer le dialogue malgré leurs différends. Le climat, vous le savez, est un problème mondial, pas un problème bilatéral. C'est une menace pour l'humanité, a dit M. Kerry à son interlocuteur, alors que certaines régions de l'hémisphère nord traversent un épisode de température extrême. Selon lui, la crise climatique exige que les deux plus grandes économies du monde travaillent ensemble pour limiter le réchauffement de la Terre. La Minute Éco, Firmin Koyaweda.
La croissance du Sénégal devrait rebondir à plus de 5,3% cette année, contre 4,7% en 2022, en partie sous l'effet de l'émergence de son secteur gazier et pétrolier, affirme le FMI. La croissance hors hydrocarbures devrait s'établir aux alentours de 6% si les autorités appliquent des politiques macroéconomiques et mettent en œuvre des réformes dans le cadre des programmes appuyés par le FMI. Le Burkina Faso et le FMI ont signé un accord de 305 millions de dollars pour aider Ouagadougou à rétablir la stabilité macroéconomique et préserver la viabilité de la dette tout en protégeant les populations les plus vulnérables. Les fonds serviront aussi à jeter les bases d'une croissance forte et un budget pour les dépenses prioritaires. Le conseil d'administration du FMI a achevé la troisième revue de l'accord au titre de la facilité élargie de crédit en faveur du Niger, ouvrant ainsi la voie à un décaissement immédiat d'environ 26,3 millions de dollars pour renforcer la résilience de l'économie nigérienne au changement climatique, la mobilisation des recettes intérieures, le rééquilibrage des finances publiques ainsi que les dépenses sociales et prioritaires.
Merci Firmin. À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Éliminatoire des Jeux Olympiques Paris 2024 en football féminin. Le Mali affronte le Burkina Faso ce soir.
Oui, coup d'envoi 16h30 temps universel au stade du 26 mars de Bamako. Les préparatifs de ce match retour se sont bien passés dans un bon état d'esprit, selon Aissata Traoré, joueuse de l'équipe nationale d'âmes du Mali.
Tout le monde est concentré, on essaie de se motiver pour faire le meilleur résultat possible ici. Nous nous attendons à un match super compliqué, on sait comment l'équipe burkinabé joue.
Que dire aux supporters ?
C'est une équipe nationale, on défend les couleurs du pays. C'est comme si les aigles A masculins venaient jouer au stade du 26 mars. Le public sortira massivement et nous aussi on a besoin de cet apport du public sportif qu'ils viennent nous soutenir.
Pour le sélectionneur de l'équipe nationale d'âmes du Mali, la victoire d'un but à zéro face au Burkina Faso au match aller est importante pour le mental de ses joueuses.
Nous abordons ce match retour avec beaucoup de sérénité. Nous comptons faire encore un bon résultat à Bamako pour obtenir la qualification. C'est un match qui n'est pas facile. Le match aller n'a pas été du tout facile. Nous avons fait beaucoup d'observations, beaucoup d'analyses par rapport au match aller. Je sais que ça ne va pas être facile.
Saloum Ousseini Mohamed, sélectionneur de l'équipe nationale d'âmes du Mali. Des propos recueillis par Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako.
NBA, Joel Embiid veut un titre NBA à Philadelphie ou ailleurs.
Je veux juste gagner un championnat, quoi qu'il en coûte, a déclaré la star camerounaise des Philadelphia Sixers, ajoutant, je cite, « Je ne sais pas où cela se passera, que ce soit à Philadelphie ou ailleurs,
mais je veux juste avoir une chance d'y parvenir. Je veux voir ce que l'on ressent quand on gagne le premier et ensuite on peut penser au suivant. Joel Embiid a réussi à décrocher son premier titre de meilleur joueur de la NBA la saison dernière, sa 8e avec les Sixers. Mais Philadelphie a été éliminée par Boston au deuxième tour des playoffs. L'entraîneur Doc Rivers a été limogé et remplacé par Nick Nurse, l'ancien coach de Toronto.
Merci, Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Centrafrique, la campagne pour le référendum sur le projet de nouvelle constitution prévu le 30 juillet s'est ouverte samedi sur l'ensemble du territoire national. La plateforme des partis de l'opposition, regroupée au sein du Bloc républicain pour la défense de la Constitution, après sa marche du vendredi dernier dans les rues de la capitale, appelle la population à boycotter le référendum. Félix Yepassis Zembrou a recueilli la réaction de Martin Zigele, porte-parole du BRDC, le Bloc républicain pour la défense de la Constitution.
La position du BRDC est claire, cette procédure est illégale et ce n'est pas le BRDC qui le dit, c'est un arrêt de la Cour constitutionnelle. C'est ce qui a valu à Mme Darlan d'être limogée. Cette procédure est illégale, le changement de constitution n'est pas prévu dans les normes juridiques centrafricaines. Donc il s'agit d'une illégalité, d'une escroquerie politique et d'un coup d'état constitutionnel. Et en tant que démocrate et républicain, nous ne participons pas à ce processus, donc nous le boycottons.
Donc, quelles actions le BRDC compte mettre en place en vue de ce référendum qui aura lieu le 30 juillet prochain? Vous appelez à voter non?
Nous n'appelons pas à voter non. Appeler à voter non, c'est participer au processus. Dès que le processus est illégal, comme je vous ai dit, on ne peut pas y participer. Donc, on demande à la population de rester chez elle et que le vote n'ait pas lieu dans les agglomérations, les circonscriptions où ils ont. Parce que c'est tout simplement de l'illégalité. L'illégalité, c'est de l'illégalité. Ça ne peut pas être réparé par la volonté d'un individu qui veut, en fait, le pouvoir à vie, la présence à vie, qui bafouille les règles, les normes, tout ce que les textes en vigueur ont prévu, il le bafouille, il écrase ça, du fait qu'il est président de la République et qu'il dispose de la force pour imposer ça aux Centrafricains, nous disons non. Comme en termes de nous avons dit non à l'Empire.
Ce sera donc le vote du non ou alors l'abstention, ou alors c'est quoi exactement?
Non, la position du BRDC, c'est de boycotter. Le boycott, c'est-à-dire que tous les Centrafricains qui estiment que leurs droits ont été violés ne participent pas au vote. Et là où, dans les circonscriptions, les agglomérations, partout, personne ne participe au vote.
Monsieur Martin Zigele, qu'est-ce que vous rejetez dans le projet de la nouvelle constitution?
Commenter la nouvelle constitution, c'est déjà accepter que c'est une constitution sur laquelle on peut se prononcer. Or, je vous dis que la démarche est illégale. Comme on dit, la forme tient le fond à l'État. Donc, d'abord, c'est un processus illégal et que la Cour constitutionnelle, qui est la juridiction suprême en matière de constitutionnalité dans notre pays, a dit que cette démarche est illégale. Nous en tenons cela. Sinon, je pourrais vous citer des dispositions complètement absurdes, telles que les problèmes de centrafricanité d'origine. Pour qu'il connaît l'histoire de la RPA, ça veut dire que Bougana, qui a épousé une Française, si un fils ou une fille du président Bougana devait se présenter aujourd'hui comme député de la Nouvelle ou candidat à la présidentielle, il n'en aurait pas droit. C'est quand même une aberration.
Qu'en sera-t-il si le 8 l'emporte le 30 juillet prochain?
Mais nous travaillons pour qu'il n'y ait pas d'élection et que le 8 n'emporte pas. Et qu'il n'y ait même pas de vote par rapport à ce projet qui est illégal, je vous le dis. C'est une position de principe. Donc tout ce qui se passe ne nous engage pas.
Martin Zigele, porte-parole du BRDC, le Bloc républicain pour la défense de la Constitution.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
L'ONU classe régulièrement le Tchad parmi les pays les plus pauvres, avec une espérance de vie, une éducation et un niveau de vie très bas. Dans ce reportage à N'Djamena, la capitale, Henry Wilkins s'est entretenu avec des Tchadiens qui luttent pour un avenir décent pour leur famille et aux experts sur ce qui peut être fait pour relancer le développement dans ce pays. Un récit d'Abdourahman Dia.
Dans la capitale tchadienne, N'Djamena, Ola Suleiman est assise au bord de la route, cassant des pierres utilisées dans la construction qu'elle compte vendre. Elle dit que la vie pour elle et sa famille est très dure, mais elle ne voit pas un autre moyen de gagner sa vie.
C'est très difficile de vivre ici sans argent. Mes enfants ne peuvent pas aller à l'école pour être bien éduqués. Nous acceptons cette situation car nous n'avons pas d'autre choix.
Le Tchad, avec ses voisins, le Niger et la République centrafricaine, se retrouve constamment au bas de l'indice de développement humain des Nations Unies. 6,5 millions de Tchadiens vivent en dessous du seuil de pauvreté, un nombre qui a augmenté de 38% entre 2011 et 2019 selon la Banque mondiale. Omar Bouarid, mère de 4 enfants, a perdu sa maison dans les inondations qui ont dévasté certaines parties du Tchad il y a 1 an et vit maintenant sur un terrain de football à N'Djamena.
C'est vraiment difficile de trouver un bon travail. Les gens souffrent. Tous les gens ici ont du mal.
Alors que pendant des décennies, les organisations à but non lucratif et les banques de développement ont investi de l'argent dans des projets visant à stimuler la croissance dans des pays comme le Tchad, beaucoup en Afrique centrale se demandent pourquoi il semble y avoir peu de progrès. L'économiste nigérian Kingsley Mogalu estime que l'augmentation de la population est un facteur majeur. Le Tchad a un taux de natalité de 6,5 enfants par femme contre moins de 2 dans de nombreux pays développés.
La croissance démographique incontrôlée est une des causes pour maintenir les cycles de la pauvreté, en fait, créer plus de conflits à l'avenir, parce que la bataille pour les ressources devient plus forte et plus aiguë.
En Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, les conflits liés aux ressources sont de plus en plus fréquents, selon de nombreux experts, ce qui entraîne à son tour davantage de problèmes de développement. Hans Freters est le responsable des opérations de la Banque mondiale pour le Niger.
Beaucoup de ces ressources, le peu de ressources dont ils disposent, ils doivent investir dans leur armée et leurs forces de sécurité. Il y a lieu de savoir ce qui est prioritaire. Le gouvernement doit-il investir davantage dans l'éducation et moins dans sa propre sécurité?
Les experts qui se sont confiés à la VOA ont convenu que la volonté politique et la mobilisation internationale sont nécessaires pour briser ces cycles de pauvreté et pour résoudre les problèmes de développement.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Rwanda, une conférence internationale sur le thème « Espace, solidarité et solutions » rassemble un groupe de femmes à Kigali, la capitale. Ce forum se tient jusqu'à jeudi. Eric Manirakidza a joint sur place le docteur Alice Mudekereza, chargé des programmes à Chorus International à Kinshasa.
L'objectif et l'intérêt de cette conférence, c'est de pouvoir créer des espaces inclusifs, des espaces créés ensemble, en synergie, pour pouvoir établir une certaine solidarité entre les différents acteurs qui travaillent sur la situation de la femme dans le monde en vue de l'améliorer. Et cette solidarité pourrait nous emmener tous ensemble à pouvoir trouver des solutions durables et les mettre en place pour être sûr d'assurer l'égalité de genre, de permettre à la femme de s'épanouir, de se promouvoir, de trouver sa place dans les communautés d'une façon, je dirais, équitable, d'une façon égale, si je peux le dire ainsi, entre les genres.
Et comment les femmes peuvent-elles travailler ensemble de manière solidaire pour résoudre les problèmes sociaux les plus pressants auxquels elles sont confrontées aujourd'hui?
Ici en Afrique centrale, en Afrique des Grands Lacs, on se rend compte que les problèmes qui se posent liés aux droits des femmes, à la santé de la reproduction, au trafic des personnes, à la pauvreté même, c'est dans plusieurs cas liés à des situations de guerre, situations de conflits armés. Et les efforts sont fournis par les femmes elles-mêmes, par les différents partenaires comme Chorus International, Imawood Health et d'autres. Mais on se rend compte que à la base, il y a ce problème de guerre, d'insécurité qui persiste et qui ne permet pas aux femmes de se développer et de s'épanouir.
En tant que femme leader, quelles sont les principales leçons que vous avez apprises au cours de votre parcours?
Au cours de mon parcours, j'ai appris que les femmes sont aussi capables d'apporter leur pierre à l'édification du monde, à la construction des pays, à la mise en place de toutes les grandes dynamiques qui peuvent exister. Je l'ai appris sur mon parcours et je voudrais l'apprendre aux jeunes filles qui sont en train d'émerger et aux autres femmes de ne pas être découragées ou intimidées. Les femmes sont aussi capables de participer, de contribuer à la construction du monde. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les femmes ont besoin qu'il y ait la paix. Les femmes ont besoin qu'on mette fin à la guerre. Les femmes ont besoin qu'il y ait la sécurité parce qu'elles sont là, elles sont dynamiques, elles sont prêtes pour travailler, mais il nous faut ce cadre. Nous voulons bien contribuer à ce cadre-là, mais le gros ne dépend pas des femmes directement.
Le docteur Alice Moudé-Kareza, chargée des programmes à Chorus International à Kinshasa.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
La Coupe du monde féminine débute ce jeudi 20 juillet en Nouvelle-Zélande et en Australie. La compétition prendra fin le 20 août, date à laquelle on saura qui va succéder aux États-Unis, champion en titre. L'Afrique va être représentée par le Maroc, la Zambie, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Nous vous proposons une série sur la présentation de ces formations africaines qui prennent part au mondial féminin. Focus sur les Banyana Banyana, l'équipe sud-africaine Yakuba Ouedraogo.
C'est dans la peau d'une équipe championne d'Afrique en titre que l'Afrique du Sud va disputer sa deuxième Coupe du monde féminine. Connue sous le nom de Banyana Banyana, l'équipe est toujours à la recherche de sa première victoire dans l'épreuve reine après ses débuts en 2019 sous les ordres de sa même coach Désiré Ellis.
Nous n'y allons pas seulement en tant que représentante de l'Afrique, mais aussi en tant que championne d'Afrique. Je pense que cela met un peu plus de pression sur tout le monde. Mais vous connaissez la Coupe du Monde, je pense qu'elle sera beaucoup plus difficile cette fois-ci.
Les Banyana Banyana sont logés dans le groupe G. Il comprend la Suède, qui n'a manqué qu'une seule fois de passer la phase de groupe, l'Italie qui a déçu lors de l'Euro 2022, et l'Argentine qui n'a pas gagné un seul match lors de ses trois dernières participations au Mondial. Désiré Ellis, qui a déjà joué plusieurs finales de la CAN avec ses protégés, le sait. L'objectif des huitièmes de finale s'annonce difficile, mais pas impossible.
Nous ne sommes pas naïves, mais lorsque vous participez à un tournoi, vous voulez bien faire. Je pense que le premier match est le plus important. Nous devons prendre un bon départ et obtenir un résultat positif. Pour l'instant, j'ai dit que nous devons sortir de la phase de groupe. Ce ne sera pas facile, mais nous avons confiance en nos joueuses.
Après avoir remporté la CAN, l'Afrique du Sud a connu une série noire, ne gagnant que 3 de ses 9 matchs suivants. Pas de quoi vraiment s'inquiéter pour la gardienne des Banyana Banyana, Kaylin Swartz.
Oui, nous avons gagné la CAN et après cela, il y a eu quelques matchs. Je pense que la fatigue s'est un peu fait sentir, mais il n'y a pas d'excuse. Nous devons être meilleurs en tant qu'équipe. C'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup travaillé sur l'aspect défensif pour qu'une fois au Mondial, nous soyons suffisamment solides pour nous défendre face aux équipes que nous allons affronter.
Début juillet, la préparation de l'équipe a été entachée par un conflit avec la fédération sur les salaires et d'autres questions. Les joueuses cadres ont refusé de prendre part à un match amical face au Botswana, estimant que le terrain n'était pas approprié pour une rencontre de préparation d'un mondial. La fédération a déclaré que le conflit salarial a finalement été résolu grâce à un don d'un joueur de football. De quoi recréer la sérénité dans le groupe comme lors de leur CAN réussie. Désiré Ellis, coach de l'Afrique du Sud.
La solidarité et l'unité dont nous avons fait preuve nous ont vraiment permis de nous en sortir et je pense que cela leur servira de leçon. Je sais qu'elles ont fait preuve de beaucoup de caractère, mais cette Coupe du Monde est d'un niveau supérieur. Donc quoi que nous ayons fait là-bas, il faudra que nous soyons à un niveau supérieur pour atteindre notre objectif.
Les Banyana entrent en lice le 23 juillet face à la Suède. Cette rencontre permettra de jauger le niveau réel de l'Afrique du Sud après une CAN remportée l'année dernière et une série de matchs perdus juste après.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sevudia, à la mise en onde de Firmin Koyaweda, à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée.